Vous êtes sur RTL. RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Bonsoir Astrid.
Bonsoir Caroline.
Bienvenue. Bienvenue Astrid.
Merci. Je vous appelle. Je vous ai déjà eu au téléphone, mais vous étiez sur une radio concurrente il y a peut-être une dizaine d'années de ça déjà.
D'accord.
Et ça me fait vraiment plaisir de vous reparler.
Eh bien, moi, je suis ravie aussi de vous retrouver, alors, sur
je
RTL.
Je vous écoute tous les soirs, presque tous les soirs.
Merci.
Surtout quand mon mari travaille.
Ah, d'accord. Vous en profitez.
Oui, voilà, parce que lui, il préfère regarder la télé. Donc,
oui.
Mais il aime bien votre émission. Quelquefois, on met en fin d'émission quand il a...
Ah, ben bah, d'accord. Regarder d'accord.
Ses émissions et... C'est vrai que je suis contente de vous reparler.
Eh ben écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver. Alors Astrid, et de quoi voulez-vous me parler?
Donc, moi je voulais vous parler de ma mère.
Oui.
Parce que j'avais donc entendu le témoignage de Sylvie hier soir. Et qui disait que sa mère, elle a haïssé sa mère parce qu'elle l'avait beaucoup...
blessée. Oui, Sylvie qui hier soir nous avait parlé d'ailleurs de ses phobies d'impulsion, c'est-à-dire
oui,
ces images intrusives où on se voit faire du mal à quelqu'un. Et donc Sylvie nous parlait de son histoire et de sa mère qui l'avait beaucoup dénigrée. C'était beaucoup en paroles, hein, enfin rabaissée, humiliée. Oui.
Et donc moi ça m'a remué parce que ça m'a rappeler ma propre expérience avec ma mère, parce que ma mère, moi, dès mon plus jeune âge, elle m'a toujours dénigrée, toujours rabaissée, toujours... alors souvent, en plus, devant d'autres personnes.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'était un peu une humiliation pour moi, puisqu'elle me... Bon, c'était... t'es mal coiffée, t'es mal habillée, t'es...
Adolescente ou déjà petite fille?
Dans mes souvenirs, c'est plutôt adolescente.
Mais oui.
Ouais.
Il y a des mères qui, au fond, au moment de l'adolescence de leur fille, se mettent en rivalité avec elle.
Oui.
Qui ne supportent pas au moment où elles voient l'éclosion de la féminité chez leur fille. Finalement, qui supportent pas à un moment où elles, ça les ramène à leur vieillissement, même si elles sont encore jeunes, et n'ont de cesse, au fond, de dénigrer la féminité. Mais ce qui montre qu'au fond, elles-mêmes ont une image de la féminité, de leur féminité très problématique.
Oui. Ben, moi, on m'avait dit ça aussi. On m'avait dit elle est peut-être jalouse de toi.
Oui, il peut y avoir des mères qui, effectivement, se mettent en rivalité avec leur fille, une forme de jalousie. Oui.
Mmh.
Oui.
Et donc, je disais à Paul que ça m'avait beaucoup détruite, quoi. Parce on n'a pas confiance en soi.
Oui. Oui, il y a un âge où on est fragile et où on a besoin qu'il y ait de la transmission, justement, et d'être accompagné dans cette période-là de la vie.
Voilà, puis parallèlement à ça, j'ai perdu. Enfin, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Donc déjà, moi j'aimais beaucoup mon père et je le voyais qu'une fois sur deux. Un week-end sur deux, les vacances scolaires, donc c'était pas beaucoup. Et puis, il est décédé quand j'ai eu 11 ans. Donc, je l'ai pas connu beaucoup.
Oui.
Et j'ai su plus tard qu'il s'était suicidé, en fait.
Ah oui. Comment l'avez-vous appris? On vous l'avait caché
Oui, il y avait un secret de famille. En fait, quand mon père a été découvert, donc... Ils ont fait un... On avait un médecin dans la famille, ma tante était médecin. Donc elle a fait un certificat en mettant qu'il a été décédé d'une embolie pulmonaire. Et donc, ça a été la version officielle pendant des années, des années, des années.
Ah, c'est un vrai secret de famille, ça, oui. Mmh. Et oui, donc, parce que même décès... votre temps, enfin, même le certificat médical ne donnait pas la cause du décès. Vous l'avez su, oui, pardon, à comment?
Moi, je l'ai su, j'avais 35 ans.
Dans quelles conditions, ça, vous l'avez appris?
Bah, c'est-à-dire que moi, j'avais, plus je vieillissais, plus j'avais des flashs. Je revoyais mon père, entre autres, qui m'avait offert une petite balance, vous savez, pour les petites filles, les petites balances.
Oui, pour jouer à la marchande.
Voilà. Oui. Donc, il m'avait offert cette balance quasiment une semaine avant de mourir. C'était au moment de Noël. Et je me suis toujours beaucoup posé la question, mais pourquoi il m'a donné ça pourquoi il n'a pas attendu Noël? Pourquoi Et je me posais des tas de questions. Et un jour, j'ai dit à une de mes belles-sœurs, mais moi, je crois que papa... il est décédé de solitude, parce qu'il aimait beaucoup ma mère, il aimait encore beaucoup ma mère. Et il m'avait dit, parce que moi j'allais le voir tous les mercredis, parce qu'en fait il vivait chez ma grand-mère, et j'allais le voir tous les mercredis, et un jour il m'a dit qu'il aimait toujours ma mère. Donc un jour j'ai dit à une de mes belles-sœurs, moi je crois que papa, il est décédé de solitude. Et elle m'a répondu, bah c'est en partie vrai. Donc, après, un jour, je suis allée sur sa tombe, mais je suis revenue voir mon frère et ma belle-sœur qui habitaient pas loin de chez ma mère. Et j'ai commencé à parler de ça, et ma belle-sœur m'a dit, mais on t'a jamais dit j'ai dit, quoi? Et elle m'a dit, bah, ton père, il s'est suicidé. Voilà, et voilà comment je l'ai su.
Et finalement, quand vous l'avez appris comme ça, qu'est-ce que vous avez ressenti comme...
Ah, mais j'ai eu un gros poids qui m'est tombé dessus, mais parce que j'aimais énormément mon père, je suis une fille, donc on sait que les filles et les pères sont quand même assez... Et moi, j'ai eu un gros poids et mon mari était avec moi. J'ai pu parler pendant le trajet du retour. Je parlais plus. Et puis après, j'en ai voulu. Donc j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, je lui ai reproché. Et elle m'a dit, mais non, mais c'était pour te protéger. Alors moi, je trouve que c'est un peu facile, ce genre d'excuses.
Ben, c'est-à-dire que, vous savez, encore aujourd'hui, dans les familles, quand il y a un suicide, encore aujourd'hui, c'est souvent tu ou maquillé. Et, bon, particulièrement lorsqu'il y a des enfants. Ce qui n'est pas une bonne chose, évidemment. Mais il faut aussi s'adapter à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que... et lorsqu'il s'agit d'un parent, c'est vrai que votre mère, ça partait peut-être certainement d'une bonne intention à cette époque-là, de ne pas vous dire, oui, parce que c'est quand même très violent, c'est une mort extrêmement violente, et au-delà, c'est un arrachement, et beaucoup de personnes, et notamment les enfants, sont partagés, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une immense douleur, et puis parfois émerge aussi un sentiment de pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as abandonné. Il y a un sentiment d'abandon, dire mais alors déjà la petite fille que vous étiez, ce cadeau, cette balance avant Noël, bon pourquoi vous posiez déjà beaucoup de questions, vous avez senti ce qui ça montre que finalement il y a toujours quelque chose qui transpire au fond, et c'est ça souvent qui est encore plus douloureux que la vérité elle-même. Maintenant, je ne suis pas partisane, bien sûr qu'il faut dire les choses, mais il faut s'adapter à l'âge de l'enfant, il faut prendre le temps d'expliquer, et c'est toujours préférable d'expliquer les choses que d'apprendre 20 ans ou 30 ans plus tard ce qui s'est réellement passé. Mais au fond, vous le saviez déjà. On parlait de flash, de choses, finalement, comme si là, peut-être enfin, ça se recoupait. Et quand vous dites, c'est terrible parce que quand vous me dites, mon père et papa est décédé de solitude, évidemment, l'enfant que vous étiez ne pouvait qu'en vouloir à sa mère. comme si votre mère, c'était la méchante qui l'avait abandonnée et qui l'avait fait mourir. Et votre père lui-même, vous me dites, petite fille, vous revenez, vous dites, tu sais, j'aime encore ta maman. C'est lourd pour l'enfant que vous étiez. Ça montre que votre père était certainement dans un état profondément, profondément dépressif. Sinon, il ne serait pas arrivé à ce niveau de désespoir. Ah mais oui, ça ne veut pas dire... Vous savez, heureusement que tout le monde ne se suicide pas suite à une séparation. Voyez ? Donc, en général, un suicide, il y a un événement dans le présent, mais qui entre en résonance avec l'histoire passée. Donc, votre mère ne pouvait pas être la seule... Enfin, on ne peut pas l'incriminer, même si votre père a été très malheureux.
Mais je sais, parce que mon père était malade, en fait. Hein. Mon père,
on va continuer. Je suis désolée de vous interrompre là, mais il y a les infos de minuit. Hein. D'accord, vous ne m'en voulez pas ? On se retrouve après minuit, Astrid. À tout de suite.
Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Et on va retrouver Astrid.
Oui.
Merci d'avoir patienté, Astrid, pendant les infos. Mais alors, si je comprends bien, vous me dites que votre père vous a remis ce cadeau, votre cadeau de Noël, cette petite balance, quelques jours avant Noël. Vous dites si il a même pas pu attendre Noël, ça veut dire qu'il s'est suicidé dans cette période-là.
Il s'est suicidé le 12 décembre.
Le 12 décembre. D'accord.
Non, attendez, le 12 décembre, je crois que c'est le... La date de son enterrement, il a dû décéder vers le 9, par là.
D'accord.
Oui, alors comme ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je ne mets pas toute la responsabilité sur ma mère, parce que mon père était très malade, en fait. Oui, il était maniaco-dépressif.
Donc, oui, d'accord. Donc, il était dans une mélancolie profonde.
Voilà.
D'accord. Vous l'avez su plus tard qu'il était, qu'il souffrait de. On disait maniaco-dépressif
à
l'époque. Aujourd'hui, on parle de trouble bipolaire. Comment l'avez-vous appris ? Par votre tante qui est médecin ?
Non, je l'ai su. Je ne sais même plus.
Vous ne savez plus, mais enfin, vous l'avez découvert après.
Par mes frères ou.
D'accord. Oui.
Oui, par ma famille. Pour expliquer un peu les choses, quoi.
C'est oui. Vrai que... oui.
Et puis bon, moi, ce que je disais à Paul, c'est que j'ai des phases de dépression et je pense que je tiens de mon père, quoi, en fait. J'ai des. Et puis, la vie que j'ai eue, c'est-à-dire que, la relation que j'ai eue avec ma mère depuis toute petite, parce que. Quand ma mère est décédée en 2005, ma marraine a dit à mon mari qu'en fait, quand je suis née, j'ai été en couveuse pendant un mois et elle s'est pas du tout occupée de moi. Elle ne voulait pas s'occuper de moi. Et aussi un jour qu'on a eu un gros conflit toutes les deux et elle m'a jeté en pleine figure que j'étais pas désirée, en fait que j'étais un accident. Donc tout ça, ça fait que ça éclaircissait un peu le comportement qu'elle avait avec moi.
Je comprends pas bien, en tout cas, pourquoi votre marraine a été raconter cela à votre mari après le décès de votre mère. Enfin, je me pose la question sur ses intentions. Je vois pas l'intérêt d'aller dire ça.
Je sais pas.
Je trouve ça finalement très agressif pour vous. De revenir, parce qu'entre-temps, je sais pas quel âge vous aviez, de revenir sur... elle vous le dit pas à vous, elle le dit à votre mari, mais évidemment, sachant que ça... allez vous être répété. Et c'est différent si c'était dans un échange avec elle, où vous posez des questions, où... Bon, on peut raconter des faits, une histoire, donner des contours, expliquer, que de dire à votre mari pour qu'il vous le répète, et finalement, c'est très violent pour vous. Parce qu'en plus, il y a plusieurs interprétations. Enfin, dire elle voulait pas venir te voir, mais on sait qu'encore aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, la néonatologie, mais quand les bébés naissent prématurément, ou c'est très compliqué pour les mères. C'est très douloureux. Elles se sentent souvent très coupables de ne pas avoir pu garder ce bébé plus longtemps. Et puis un bébé qui est dans une couveuse, il est perfusé de partout. Enfin, c'est très angoissant comme image. Et souvent, les parents n'osent pas les toucher. Et aujourd'hui, on sait l'importance de ce premier lien dans le lien d'attachement. Et on fait en sorte, enfin, les parents, on les rend extrêmement présents. On fait en sorte qu'ils puissent malgré tout prodiguer des soins avec leur bébé. On leur met dans les bras, même alors qu'ils ont des perfusions. Mais quand vous êtes née, Astrid, ça ne se faisait pas. On n'était pas attentif tout ça. Et un bébé dans une couveuse, il y a cette distance qui peut... voyez...
J'avais que un mois. J'étais que prématurée d'un mois. Mais
Bah oui, mais bon. C'est mais pendant... Elle, vous sortez de son ventre, vous vous retrouvez dans une couveuse, elle ne peut pas vous toucher. Bon. Mais ça ne veut pas dire... Enfin, bon, je vous dis ça comme ça, mais je trouve que votre marraine... Elle vous a pas aidé en disant ça, voyez.
Mais je pense qu'elle a dit ça pour expliquer le, pour oui, expliquer enfin. Les choses. Pour expliquer
c'est son explication que... à elle. Ça veut pas dire que c'est la vérité.
Oui, mais parce que si on regroupe les informations comme quoi ma mère en fait m'a toujours dénigrée en fait. Et parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on, il paraît qu'on, que le bébé, le fœtus, sent quand quand le ouais, il est pas désiré ou que. Bah,
vous savez, là aussi, toutes ces histoires, enfin. Bien sûr que un bébé à l'intérieur de sa mère et ressent ses émotions, mais là aussi. Au départ, c'est bien parce qu'on a progressé dans la connaissance du psychisme des enfants et des bébés et du lien qui se crée entre la mère et son bébé dans son ventre. Mais finalement, ce qui au départ avait comment dire, c'était louable de vouloir faire connaître les liens, les échanges, comment finalement se construisait un tout petit. C'est ça. Ça contribue à mettre la pression, ce qui n'était pas l'intention première, sur les mères, parce qu'on entend, des mères dire oh, « je me sens angoissée en ce moment » ou « je suis triste parce que je vis quelque chose et je fais du mal à mon bébé parce que je ne peux pas m'empêcher d'être triste ou angoissée ». Et ce n'est pas aussi simple, parce que de toute façon, on sait qu'évidemment, pendant une grossesse, il peut arriver des événements qui vont venir perturber la future maman et que... on peut avoir des moments de peur, d'angoisse, des moments de tristesse, et c'est pas pour autant que le bébé va être dépressif en arrivant au monde. Voyez, c'est pas aussi simple. Maintenant, j'entends que vous vous interrogiez, notamment sur le comportement de votre mère, qui, alors que vous étiez bien là, enfin, et vous dénigrez, vous rabaissez, et vous vous sentiez pas aimé d'elle, et ça vous a fait beaucoup souffrir. C'est ça que j'entends. Bon, après, quand on vous dit pas désiré, vous savez, il y a eu toute une époque avant la contraception où combien d'entre nous sont nés et où c'était pas volontaire, c'était pas un projet d'enfant comme on l'a depuis quelques générations. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'un enfant qui n'avait pas été, c'est pas le mot qu'on devrait utiliser, désiré. Prévu, plus exactement. Vous voyez, prévu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aimé. Et à l'inverse, vous savez, on voit malheureusement des enfants, ils ont été prévus, ça a été programmé, et pour autant, ils viennent au monde, ils ne sont pas aimés. Donc, ce n'est pas aussi simple. Bon, mais aujourd'hui, finalement, vous m'appelez pour me parler de votre mère. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Où est-ce que vous en êtes un peu? Comment vous vous êtes un peu approprié cette histoire, qui est une histoire bien, bien douloureuse? Parce que il y a, vous dites aujourd'hui, vous avez vous souffrez d'accès dépressif. Il y a eu un événement quand même majeur, perdre un parent dans l'enfance, c'est un traumatisme majeur pour un enfant. Et dans les circonstances dans lesquelles ça s'est produit, hein, se suicide. Ouais. Bon. Et puis, ben, votre mère qui, oui, dont vous ne vous êtes pas senti aimée, ça fait beaucoup. Mais comment êtes-vous suivie? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous m'appeliez pour me parler de votre dépression, de qu'est-ce que
oui,
vous vouliez
alors,
me
bah,
dire au
fond? C'est vrai que je suis en dépression depuis l'âge de. Enfin, je suis en... je fais des rechutes. J'ai des périodes où je suis bien et j'ai des périodes où je rechute.
D'accord.
Et j'ai vu, donc je disais à Paul, j'ai vu une psychiatre qui m'a suivie pendant 33 ans. Donc j'ai commencé ma psychothérapie à 22 ans. Et je l'ai terminée là, il y a deux ou trois ans.
Avec la même psychiatre?
Oui, la même.
Ah, bon, d'accord.
Et elle est partie en retraite, donc je me suis retrouvée sans personne et elle connaissait pas trop de confrères.
Ah bon? Bah ça c'est un problème, bah, parce qu'en général on part pas là. Oui.
C'était des jeunes, c'était pas les mêmes techniques donc que elle.
Ah oui, d'accord. Elle avait un réseau, mais évidemment ils avaient vieilli comme elle, donc elle pouvait pas. Oui, je comprends mieux. D'accord.
Oui.
Et oui.
Donc,
bon, mais ils peuvent être jeunes et tout à fait compétents, elle aussi. Quand vous avez commencé avec elle, elle était jeune aussi.
Ah oui, elle était jeune.
Oui.
Et en fait, moi, je suis allée sur Internet, j'ai trouvé quelqu'un sur Pornic, comme moi j'habite dans la région française.
Oui.
Bon, je suis allée la voir et un jour, ça se passait bien, puis un jour, elle a annulé mon rendez-vous sans explication.
Ah bon?
Et d'ailleurs, c'est même pas elle qui l'a annulé, c'est son père ou quelqu'un qu'elle connaissait.
Le père de votre thérapeute?
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il vient faire?
C'était un monsieur âgé, en fait, qui m'a appelé pour me dire que elle était désolée, mais qu'elle avait un problème et qu'elle annulait le rendez-vous.
Ah bon, bah elle avait eu un problème alors personnel qui l'obligeait à annuler en dernière minute.
Ouais, sans doute. Enfin bref, ce qui s'est passé, c'est qu'après moi, j'ai rappelé pour avoir un autre rendez-vous, sauf que j'ai laissé des messages et elle m'a jamais rappelé.
Ah oui.
Donc au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai dit bon bah écoutez, si vous voulez plus me voir en consultation, moi je vais chercher quelqu'un d'autre.
Oui, vous avez bien fait. Peut-être qu'elle a eu un gros souci et qu'elle ne consultait plus. Hein.
Voilà, et du coup... Non, parce qu'elle m'a rappelé quand même en me disant que... Elle m'a rappelé sur mon répondeur en me disant que non, il n'y avait pas de souci, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de me rappeler. Bon.
Oui. Bon, vous, bon, en tout cas, oui, ça. Bon,
voilà.
Vous n'étiez
donc,
plus en
après,
confiance.
On a cherché quelqu'un d'autre. Mon mari m'a aidé à chercher quelqu'un d'autre. On a trouvé quelqu'un qui était très, très, très compétente. Et le problème, c'est qu'elle était au CMP et de Match Cool. Hein, et elle était en fin de contrat, donc elle partait.
Ah oui.
Et moi, je me suis retrouvée avec donc sa remplaçante que je connaissais pas du tout et qui s'est avérée être quelqu'un de très désagréable.
Ah bon.
Donc déjà, elle m'a reçue. Je suis arrivée. Normalement, on arrivait, on se mettait du gel sur les mains pour par rapport au.
Oui.
À la pandémie, quoi.
Mm-hmm.
Et je suis arrivée, elle m'a même pas le temps de me... Même pas laissé le temps de me mettre du gel. Allez, venez là, venez rentrer dans le bureau. Et puis, donc, ça commençait très mal. Parce que moi, en plus, j'aime pas être...
Bousculée.
Voilà. donc, après, elle pianotait sur son ordinateur, elle me posait des questions. À un moment donné, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? J'ai dit, écoutez, moi, je viens vous voir. Donc,
oui, c'est pas... Bah, je viens vous voir, justement. J'aimerais bien que vous m'aidiez. Oui, voilà. C'est un peu brutal.
Donc, si vous voulez, c'est tellement mal parti qu'au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ça va, vous connaissez rien de mon histoire, vous savez pas ce que...
Vous avez bien fait.
Et je suis partie. Je suis partie de la consultation. Ouais. Elle m'a dit, mais attendez, il vous faut bien des médicaments. Je dis, c'est pas grave, j'irai voir
Vous médecin pouvez traitant. Voir votre médecin traitant, vous avez
voilà.
raison.
Donc je suis allée voir mon médecin traitant. Mm. Il m'a donné des médicaments.
Oui.
Il m'a suivi mon traitement et c'est lui qui me suit. Et ce que je disais à Paul, c'est que actuellement, je suis bloquée. C'est-à-dire que j'ai peur d'aller chez un autre psy parce que j'ai peur de tomber encore sur une personne.
Ah oui, je comprends.
Parce que moi, quand je suis rentrée chez moi, j'étais en pleurs. Hein. faut quand même le savoir.
Oui, oui, je comprends. Donc, ben, c'est vrai que depuis, oui, c'est que pendant des années, il y avait cette psychiatre avec qui vous faisiez la thérapie. Et bon, ben, voilà, elle est partie à la retraite. Vous aviez, vous, besoin d'un soutien, de parler. Et c'est pas évident, hein, déjà, de passer quand on a construit une relation sur voilà. des années où vous n'avez plus besoin de re-raconter votre histoire puisqu'elle la connaît. Bon, de trouver quelqu'un, même si d'ailleurs la personne est compétente, on fait toujours des comparaisons au début. Mais ça peut être intéressant, un nouveau regard. Et là, il y a eu, ben oui, dans les CMP, dans les centres médico-psychologiques, malheureusement, vous savez, c'est le problème de la psychiatrie. Hein. On a du mal à trouver des psychiatres. Ils sont sur plusieurs CMP. Ils ont des contrats pour un temps donné. Bon, et puis c'est la dernière qui était désagréable. Vous pouvez demander à votre médecin traitant, peut-être, parce que il peut être de bons conseils. Les médecins traitants ont des travaillent généralement, enfin, en réseau. Ils ont quelques adresses. Ils peuvent vous recommander, voyez, des psychiatres.
Ben moi, je lui avais demandé, mais il m'avait indiqué le CMP, en fait.
Et oui, vous avez indiqué le CMP. Ben alors, vous pouvez lui expliquer, enfin, vous lui avez dit, dire non, la personne que j'ai vue ne convient pas du tout, et qu'il se renseigne. Il a certainement autour de vous, peut-être, ou en demandant même à certains de ses patients. Bon, le CMP, c'est bien qu'il vous ait orienté là, malheureusement, ça ne convient pas. Demandez-lui les coordonnées d'un
thérapeute.
Non,
il y a mon mari, par contre, il fait une analyse aussi avec une psychothérapeute.
D'accord.
Et elle lui a donné des noms. Le problème, c'est que moi, je suis bloquée. Je me dis, est-ce que je vais prendre rendez-vous avec une de ces personnes-là? Comment ça va se passer? J'ai peur, quoi. Je me dis, comment ça va se passer
Ben, vous pourrez d'abord... déjà, vous pouvez, avec les noms qu'elle vous a donnés, prendre un rendez-vous par téléphone. C'est pas mal, le téléphone, parce que ça vous donne déjà, même si c'est court, un peu dans l'approche. Vous voyez déjà la personne, est-ce qu'elle vous rappelle ou pas? Ou peut-être que vous allez parmi les noms qu'elle vous a donnés, il y en a qui vont vous dire « Ah, je suis désolée, mais actuellement, je ne prends plus de nouveaux patients ». Oui, parce que dans les thérapies, vous savez que on revoit les patients à des dates fixes, des jours fixes, et certains ne prennent plus de nouveaux patients.
Ouais.
Et vous allez voir comment vous allez être accueilli. Alors parfois c'est un secrétariat, là évidemment, mais parfois c'est le psy lui-même qui répond. Ça vous donne un peu une indication. Et puis après, il faut essayer. Il faut essayer et faites-vous confiance. Vous savez, je comprends que vous ayez été déstabilisé, que ça vous ait perturbé, mais ça montre que votre expérience aussi de la thérapie montre que quand ça ne va pas, vous savez dire non et vous protéger. Là où peut-être si vous aviez démarré, quelqu'un de nouveau dirait tant pis, je continue, j'ai rien d'autre, c'est peut-être comme ça, les psys, peut-être qu'ils regardent leur écran, enfin bon, vous voyez, je ne sais pas. Faites-vous confiance. Et que vous dire si ce n'est d'essayer, et déjà en premier lieu en téléphonant, vous aurez un premier contact, et lors de la première séance, vous verrez bien, et vous pouvez le dire d'emblée. Dire, vous savez, j'ai fait une thérapie pendant 30 ans, évidemment, j'avais construit un lien, et depuis, j'ai rencontré quelques thérapeutes avec qui le contact ne s'est pas du tout bien passé. Et j'appréhende un peu. Vous pouvez démarrer là-dessus.
Ouais, d'accord.
Vous voyez, n'ayez pas peur de l'aborder, cela. Je vous dis au revoir, alors.
Oui, Astrid. Au revoir, Caroline. Hein,
et puis j'espère que, je vous dis, vous allez trouver. Déjà, vous avez quelques noms, rappelez-les, il n'y a pas de raison.
Oui.
Que vous ne trouviez pas quelqu'un à l'écoute. Je vous embrasse, Astrid.
Oui,
merci
moi aussi,
pour votre appel. Au
merci
revoir.
Merci beaucoup, au revoir, Caroline.
Au revoir.
Jusqu'à 12h30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.